Bonjour à chacun, ceux que je connais déjà, ceux que je ne connais pas.
Présente-toi, Florian, peut-être rapidement. On me demande ici.
D'accord. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis heureux de voir des visages nouveaux. Et on pourra faire connaissance peut-être un peu plus tout à l'heure auprès du repas. Vous m'entendez? C'est bon? Ça va? C'est bien. Donc, Florian Rochat et Catherine, mon épouse, on a 3 enfants. Maude, notre aînée qui a 21 ans, qui est à Dijon aux études d'assistante sociale. Urbain, notre deuxième, qui vient de fêter ses 17 ans. Et puis Mathias, notre troisième, qui a 13 ans. On vit dans le Jura. Les 3 axes de notre ministère, c'est les choses que vous avez aussi à cœur, je crois, à Wavrin, dans ce que vous vivez. L'unité du corps de Christ. Je suis responsable du Comité national de dialogue entre l'Église catholique de France, la Conférence d'évêques et puis les Églises protestantes évangéliques de France. Donc on se retrouve chaque année plusieurs jours pour échanger, partager, échanger nos différences, nos richesses, nos points communs aussi entre l'Église catholique et les évangéliques. Deuxième aspect du ministère, c'est l'aspect d'éthique, l'aspect de combat sociopolitique, la présence des chrétiens dans la société, qu'on ne soit pas enfermé dans notre bocal chrétien, mais qu'on ait vraiment un rayonnement pour être sel et lumière de la terre. Et puis le troisième aspect que vous avez aussi à cœur, bien sûr, c'est l'évangélisation, l'implantation d'église. Et actuellement, avec une équipe, on est en construction depuis une quinzaine d'années pour implanter 4 communautés, 4 petites églises dans le Jura et la Bresse voisine, sur Louhain, Moret, Arbois et Dole. Voilà. Donc, vous pouvez penser au Jura et ses implantations d'église. Le message que j'aimerais vous partager ce matin, que j'avais à cœur de travailler avec vous, cet enseignement, c'est peut-être plus particulièrement sur cet aspect des chrétiens présents dans la société, chrétiens présents dans le monde. Vous êtes peut-être à l'école, peut-être étudiant, peut-être au chômage, peut-être retraité, peut-être en pleine phase active dans votre vie professionnelle. Et quelle que soit votre situation, vous êtes, je pense que ça ne fait pas de doute pour aucun d'entre vous, même quelqu'un qui est à l'hôpital, vous êtes tous, chacun, présents dans ce monde. Hein, vous n'êtes pas encore au ciel, et vous n'êtes pas au cimetière, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas ailleurs que présents dans ce monde. Donc c'est un message qui devrait en principe tous vous concerner. Alors j'aimerais vous parler en introduction un tout petit peu pour introduire ce thème de notre présence dans la société à Lot. Lot, ce personnage biblique que vous connaissez tous, ou en tout cas vous en avez entendu parler, dans l'histoire d'Abraham et de Lot. On va pas relire tout ce récit, ça nous mènerait trop loin, vous pourrez le reprendre chez vous. Mais j'aimerais juste attirer votre attention, si je vous demandais de résumer, de faire sortir une ou deux phrases pour expliquer à quelqu'un la vie de Lot. Comme je me suis présenté en 3 phrases, comment vous présenteriez Lot, ce personnage biblique? Alors, si quelqu'un veut bien se mouiller, se lever, un chrétien de longue date, bien évangélique, qui connaît bien, spontanément, 3 phrases pour présenter Monsieur Lot. Alors lève-toi. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait? Où c'est qu'il a vécu? Oui, puis après, quand on...
Quand Abraham est parti, parce que lui...
Un appel de Dieu, voilà, il a suivi.
Il a suivi Abraham, mais sur ce qu'Abraham avait...
Et à un moment donné, ils sont séparés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a choisi...
Il a choisi ce qui lui plaisait, toi, et
Abraham. Et c'était Lausanne, Bruxelles...
C'était la plus belle
partie, mais je ne sais pas. Sodome et Gomorre, hein, voilà. Donc souvent, merci beaucoup cet exercice, souvent, là tu as été même très théologique, tu as dit beaucoup de choses, moi ce que je souhaitais c'était une réponse toute simple. En général, en tout cas pour ma part, quand on pense à Sodome et Gomorre, c'est la ville de toutes les péchés, débauches, tout ce que vous voulez, et il a choisi la facilité, il a choisi si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham a choisi les montagnes comme moi, le Jura, vous avez choisi la plaine comme Lot, pardon. Oh non, je retire ce que j'ai dit, hein. Autrement Jean-Luc il va plus m'inviter. Non, Lot a choisi de vivre à Sodome et Gomorre, et relisez, si vous voulez, certains films d'horreur dans les récits érotiques, sadomasochistes, des pires films que vous pouvez voir aujourd'hui, que nous chrétiens condamnons, sont dans la Bible, avec des récits atroces d'abus, de viols, de choses terribles, que même livrer sa fille à des visiteurs, il y a des anges encore qui se mélangent, enfin, c'est un truc horrible, incompréhensible, sur lequel je ne vais pas prêcher ce matin. Mais c'est juste pour penser, voilà Lot, hein, toi tu as dit, bah, il n'a pas entendu l'appel de Dieu, il a fait ce qui lui plaisait, ce qu'on souvient c'est que Sodome et Gomorre reste même dans le langage courant aujourd'hui en France, quand on veut parler de sodomie et d'autres choses comme ça, hein, Sodome et Gomorre c'est vraiment tout la débandade, la débauche, et Lot a choisi ça. Maintenant j'aimerais qu'un chrétien autre que notre sœur se lève pour dire, présentation de Monsieur Lot au travers du Nouveau Testament. Ça c'est intéressant, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va présenter Monsieur Lot. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Oui, vas-y.
C'est là où il est juste.
Voilà, vous avez entendu ce qu'a dit notre sœur? Donc nous présentons Monsieur Lot, et j'aurais fait comme notre sœur, hein, un peu comme un débauché, quelqu'un qui n'entend pas la voix de Dieu, quelqu'un qui choisit un mauvais chemin. Et le Saint-Esprit et Jésus passent par là et nous parlent dans le Nouveau Testament. Lot, virgule, ce juste, virgule, et on continue. Intéressant, le regard de Dieu sur quelqu'un qu'on a décrit tout à l'heure, de manière un tout petit peu différente. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et les ouvrir dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8. De Pierre 2, 6. Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. On parlera, notre frère à la Sainte-Seine a souligné plusieurs fois ce souvenir, commémorer, se rappeler. Et là aussi, il nous est dit que ces villes de Sodome et Gomorre ont été données pour nous aujourd'hui, pour nous souvenir, donner un exemple aux générations futures. Il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste, si on ne l'avait pas compris, c'est répété, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme. Juste, si on ne l'avait pas compris, une troisième fois, à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Voivrin, ou Lille, c'est moins que Sodome et Gomorre dans la débauche. Parfois, on a l'impression que c'est de pire en pire. Hein, quand on voit certains films qui sortent, certains livres qui sortent, c'est même certaines choses qu'on fait lire à nos enfants, etc. On dit, oulala, le monde est vraiment à la fin, Jésus va revenir, c'est plus possible. Mais c'est tout faux, excusez-moi, c'est tout faux. Sodome et Gomorre, c'est pas il y a 100 ans, c'est pas au siècle passé, c'est pas il y a 500 ans, c'est pas avant la réforme, c'est pas aux premiers chrétiens. Abraham, d'accord? Et c'était une ville qui est citée encore aujourd'hui dans le langage courant comme sommet de la débauche. Donc, Lot vivait là au milieu. Donc, nous ne sommes pas dans une situation pire. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité de mal, c'est notre attitude de cœur. Lot est appelé le juste, étant pécheur comme nous. Pourquoi? Parce qu'il tourmentait son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait. Alors, est-ce que vous voyez et est-ce que vous entendez? Alors, vous savez qu'il y a des aveugles ou des gens sourds qui voient mieux et qui entendent mieux que des gens bien voyants et bien portants. Hein. Il ne s'agit pas qu'une question de yeux et d'oreilles physiques. Est-ce que vous êtes dans ce monde, c'est ça l'enjeu, des hommes et des femmes qui voient et qui entendent? J'espère. Mais c'est déjà une première interpellation. Lot était juste parce qu'il voyait et qu'il entendait ce qui se passait. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous entendez ce qui se passe à Wavrin aujourd'hui? C'est comme ça qu'on est déclaré juste devant Dieu. Alors bien sûr, il y a le sang du Christ, la croix, on l'a dit. Merci à la louange, c'était super. Mais des fois, on a besoin de dépasser nos schémas pour entendre d'autres choses qui ne sont pas l'essentiel de la foi. L'essentiel de la foi, c'est Jésus-Christ. Je ne prêcherai rien d'autre que Jésus-Christ mort et crucifié. Le problème, c'est que vous le savez déjà bien. Pas le problème, la grâce, c'est que vous le savez. Mais j'essaye de vous montrer d'autres aspects aussi qui sont du cœur de Dieu. Lot est juste parce qu'il sait voir et entendre. Et qu'est-ce qu'il en fait ? Eh bien, il aurait besoin d'un sérieux séminaire de relations d'aide, de jeunesse en mission, il aurait certainement besoin de beaucoup de guérison intérieure, il aurait besoin surtout de trouver la peau et le repos dont on parlait hier, dont on a tellement besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Jésus lui dit, tu es juste et tu avais raison de tourmenter ton âme de ce que tu voyais, de ce que tu entendais. C'est comme étonnant, nous on devait plutôt dire non mais c'est pas très bien, viens dans le repos de Dieu. Ferme tes yeux dans la grâce de Dieu. Oui, on sait bien, le monde est perdu. Mais vous, vous êtes bien. Fermez vos yeux dans le repos de Dieu. Alors pourquoi pas des fois, si après, ça nous donne de mieux ouvrir les yeux et de mieux voir et entendre ce qui se passe pour que notre âme juste soit réellement tourmentée par ce qu'elle voit. Nous ne pouvons pas nous accommoder, nous contenter, nous adapter à ce monde. Ça n'est pas possible. Mais il y a des séminaires chrétiens évangéliques qui nous demandent de nous adapter et de vivre bien dans ce monde par la paix du Christ. Un deuxième texte, Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. On lira plusieurs textes bibliques aujourd'hui. Ézéchiel 9, versets 1 à 4. On va voir si cette exception, si Lot était une exception de tourmenter son âme, mais qu'en fait, non, on pourrait très bien dire, vous allez me dire, oui, mais Lot, justement, c'était ça son problème. C'est parce qu'il n'avait pas la grâce, parce qu'il n'était pas proche du cœur de Dieu, qu'il n'était pas en paix, donc il tourmentait son âme. On peut contourner comme ça le problème, mais on va voir. Alors, on va prendre un autre récit où il n'y a pas question de Lot, voir si c'est un vrai principe biblique. On dit en général qu'on ne peut pas tirer quelque chose d'un seul verset biblique, parce qu'on pourrait arriver à des dérives. Mais s'il y a deux versets dans la Bible différents qui nous montrent une même vérité, alors là, il y a probablement quelque chose qui est assez d'un absolu de Dieu. Ézéchiel 9, versets 1 à 4. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. De nouveau, il faut entendre. Et là, il a crié d'une voix forte à ses oreilles. Approchez-vous. Vous qui devez châtier la ville, on ne parle plus de Sodome et Gomorre, on parle d'une autre situation. Chacun son instrument de destruction à la main. Voici six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. La gloire de Dieu, du Dieu d'Israël, s'éleva et du chérubin sur lequel elle était, elle se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. Et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, c'est plus Sodome et Gomorre, et fais une marque, vous savez, on s'inquiète beaucoup de la marque de la bête. Là, c'est une autre marque positive. On a peur d'avoir la marque de la bête, là, il faut avoir la marque. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le projet du jugement final de Dieu, c'est d'envoyer six hommes pour juger, et un homme en vêtements de lin, et devant le jugement, qui pour moi est plutôt l'œuvre du mal, de tuer, de détruire, mais c'est leur juste conséquence. Mais ces six hommes, il y en a un qui est en vêtements blancs là au milieu, et celui-là, avant que les six hommes passent pour détruire, va marquer des hommes d'une croix sur le front pour être sauvés, pour être épargnés du jugement. Et c'est ceux qui souffrent et qui gémissent du mal qui se commet autour d'eux. C'est comme le comble de me dire de venir pile Jura pour vous encourager à souffrir et à gémir dans ce monde. Tous les séminaires d'épanouissement personnel, de guérison intérieure, c'est justement pour nous apprendre à plus souffrir, pour être délivré de les souffrances, pour être délivré du mal, pour être délivré de gémir. Et parfois, on est schizophrène. Vous avez remarqué là les annonces tout à l'heure. Les deux sujets qui ont été présentés, trois sujets. Une sœur qui a perdu sa sœur dans des circonstances difficiles cette semaine. un petit enfant qui est là avec un cerveau complètement catastrophique, et Thibaut, hein, c'est ça, qui vit pas plaisir. C'est facile quand on est en bonne santé, qu'on a entre 40 et 50 ans, pas trop de soucis de santé, pas de parents trop vieux, des bonnes soirées et des bonnes conventions de louange. Ça, c'est super, on en a besoin, j'ai rien contre, hein, j'en fais dans ma région. Et Jean-Luc est venu la dernière fois, tu as vu qu'on faisait aussi des bonnes soirées de louange. Mais quand même, je m'interroge si nous ne sommes pas un peu schizophrènes. Comment pouvoir être juste, avoir les yeux ouverts sur notre monde, entendre les choses, être vraiment dans ce monde, en pouvant être déclaré juste, être épargné du jugement, parce qu'on a, on est de ceux qui sont reconnus comme souffrants, gémissants, face à ce qui se passe autour de nous. Alors j'aimerais dire, et ça me semble très important, je ne sais pas si vous êtes plutôt de nature, comme Lot qui souffre et qui gémit dans ce qu'il voit, ou plutôt des insouciants. Il y a aussi une question de caractère, il n'y a pas qu'une question de spiritualité. Mais ce que j'aimerais soulever, c'est que, qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas d'une peur ou d'un gargarisme de mauvaises nouvelles. Ça, on le trouve présent dans nos milieux évangéliques. Le gargarisme de mauvaises nouvelles, c'est parfois même, qu'on ne veut pas, à celui ou à celle qui pourra apporter la plus terrible mauvaise nouvelle du journal. Vous vous rendez compte encore ce que j'ai lu hier, ce qui s'est passé, ce gars ou cette femme, elle a fait ci, elle a fait ça, et puis il y a eu encore ça, puis j'ai appris que l'Irak avait des nouvelles bombes cachées, etc. Ah oui, il y a une espèce des fois de surenchère, où on est presque fier d'annoncer des terribles nouvelles, parce que ça nous rapproche du retour de Jésus. C'est pas cette attitude-là dont il est parlé dans la Bible, mais qu'il nous faut veiller à ne pas avoir. Deuxième chose à éviter, ce n'est pas une peur craintive qui fait qu'on se retire du monde. Si je veux voir et entendre, c'est bien parce que je suis dans et avec. Ce n'est pas une peur, comme nous avons parfois, du mal, des mauvaises nouvelles. Donc ni un étalage, ni un gargarisme, ni une peur des mauvaises choses, mais une attitude du cœur qui souffre. Et comment ne pas penser dans le Nouveau Testament à cette image du Saint-Esprit en nous, qui, quand nous ne savons plus comment intercéder, c'est justement l'intercession, elle est justement quand il y a des problèmes, c'est pas quand tout va bien l'intercession, c'est de combattre pour des choses, hein, pour le salut des gens, pour la guérison, pour le combat, pour l'annonce de l'évangile. L'intercession est bien quand je vois et j'entends des choses qui vont pas, autrement j'intercède pas, je loue seulement. Et dans ce combat justement, dans ce que je vois et ce que j'entends, l'intercession, c'est là qu'il est dit que le Seigneur, par son Esprit Saint, intercède en nous par des soupirs, des gémissements inexprimables. Vous voyez comme la parole de Dieu est unie, hein? On voit Lot, le juste. Pourquoi? Parce qu'il... On voit Ézéchiel, le jugement à la fin du monde. C'est la souffrance. Il dit, mais alors, on est sauvé par la souffrance. Alors, ça, qu'est-ce que c'est cette histoire, là, tout d'un coup? C'est parce que... Non. Mais néanmoins, dans l'intercession, c'est de nouveau des souffrances et des gémissements que le Saint-Esprit inspire. Vous voyez, cette unité, la parole, et de la chose qui est là présentée comme vérité de Dieu. Donc le Saint-Esprit ne m'amène pas à étaler le mal du monde, à faire du voyeurisme comme certaines revues qui sont là, choc. Mais nous sommes invités à laisser en nous, comme une chose bonne, des soupirs, des gémissements dans notre âme face à ce que nous vivons dans ce monde. Ce n'est pas un esprit de jugement, ce n'est pas un esprit de crainte, ce n'est pas un esprit de supériorité. Nous, nous sommes bons, regardez comment les autres sont dans la débauche. Mais c'est un cri, une souffrance, presque une identification, parce que nous sommes humains, avec nos frères et sœurs en humanité. Dans cette situation, c'est pas très encourageant et positif, comment alors être sel et lumière de la terre? C'est un peu une longue introduction que j'ai faite, mais je voulais vraiment poser pour cet enseignement cette base de comprendre pourquoi je parle de souffrance, de gémissement, d'écouter et d'entendre dans notre monde notre attitude pour recevoir une attitude juste, là au milieu. J'aimerais lire avec vous encore des textes dans le livre des Nombres. Oui, c'est intéressant, ce matin, on lit des textes qu'on ne lit pas souvent, et qui sont importants. Des fois, on nous dit, mais comment lire toute la Bible, et puis ces récits du livre des Nombres, franchement, ça c'est un livre difficile. Eh bien, je vais vous proposer ce matin, au travers de trois courts textes du livre des Nombres, je dirais le projet que j'ai découvert de Dieu sur comment être et vivre dans ce monde, avec ce que j'ai partagé, de la souffrance, la difficulté, d'un regard ouvert sur le monde, sur vos voisins, sur vos entreprises, sur l'économie, sur la crise, sur les non-chrétiens qui nous entourent. Trois paroles qui sont tirées des nombres. Donc vous voyez qu'il y a un livre des nombres qui est très 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 intéressant puisqu'il peut nous enseigner comment être aujourd'hui à voix vraie. Premier texte, nombre 18, un seul verset. Vous voyez qu'il y a une progression, une logique dans ce que j'essaie de vous communiquer, nombre 18, verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux, c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Règle de base, point de part pour toi au milieu d'eux. Deuxième texte des nombres, nombre 11, quelques pages avant, nous allons lire à partir du verset 16, nombre 11, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël et ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'elle s'y présente avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Plusieurs versets plus loin, verset 24, Moïse sortit, et rapporta au peuple ces paroles de l'Éternel. Il assembla donc 70 hommes des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée, comme il l'avait annoncé à Moïse, et dit, je prends de l'esprit qui est sur toi, Et il le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lequel l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits sur la liste, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. Ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les de prophétiser. » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur chacun d'eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Troisième et dernier texte pour ce matin, nombre 17, versets 1 à 11. Nombre 17, versets 1 à 11. On va lire quelques extraits, on va peut-être pas tout lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle, on a parlé dans la Sainte Seine, là, le frère nous a parlé de la manne qui était conservée. Il y a autre chose qui était conservée, c'était le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et c'est ce récit-là. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux un bâton selon les maisons de leur père, soit 12 bâtons de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton. Verset 5, l'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira. Verset 7, Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, avait poussé des boutons, produit des fleurs, mûri des amandes dans la nuit. Verset 10, l'Éternel dit à Moïse, rapporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure. On a eu un petit signe du Saint-Esprit que c'était bien ce message pour ce matin. C'est souvent des petits signes, des petits clins d'œil quand une phrase est soulignée comme ça, qui apparemment n'a aucune raison, par la louange ou par la Sainte Seine. C'est quelque chose que j'avais pas prévu de le dire, mais c'est un petit signe que je vous encourage à réfléchir, à méditer, quand vous avez quelque chose qui n'est pas commun. Parce que si vous êtes dans un culte, puis on vous dit que Dieu est amour, qu'il est mort sur la croix, il y a bien des chances que dans le message ou à un autre moment dans la semaine, vous l'entendiez de nouveau. Mais quand il y a une chose si précise que le fait, comme a dit notre frère à la Sainte Seine, que c'était important qu'il ait conservé la manne pour servir de témoignage pour nous aujourd'hui, comme la Sainte Seine. Là, c'est aussi un des points que j'insiste. Il a gardé ce bâton dont je vais parler, hein, je vous le dis ça comme introduction à ce que je vais dire après. Il a gardé ça pour nous servir de témoignage aujourd'hui à nous. Donc c'est la même pensée. Hein. Il donne des signes 1000 ans, 2000 ans avant, et il les donne aujourd'hui, ce matin, à Wavrin, pour notre utilité. D'accord ? C'était la même pensée, je souligne, du Saint-Esprit, qui a une intention là derrière. Alors, première de nos trois paroles des nombres. Point de part pour toi au milieu d'eux, pas de possession. C'est très riche d'enseignements sur comment être et vivre aujourd'hui à Voivrin et dans la région lilloise. Je crois que cette parole est extrêmement vraie et qu'il nous faut mieux la comprendre. Et moi, j'ai eu de la peine, j'ai mis du temps et je ne pense pas que je la saisis encore complètement. Quelque chose qui paraît à première vue, au premier degré, très simple à comprendre. Pour l'époque, au sens littéral, c'était simple. C'était pour que les Lévites n'aient pas de possession, hein, pas de terre. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que vous ne devez pas acheter de maison. Hein, autrement, même votre pasteur serait coupable. Oh non, il ne l'a pas acheté, il l'a hérité. Donc, ça irait. Mais pas de possession, donc tu serais quand même en faute. Donc je ne le prends pas au sens littéral. Mais spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire pour être aujourd'hui dans ce monde avec une âme juste qui souffre, qui gémit par le Saint-Esprit et qui est appelée à ne pas avoir de possession? Nous souffrons parce que notre monde ne reçoit pas les lois de Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous souffrons, j'espère que vous êtes juste et que vous souffrez dans notre monde. Et notre souffrance, c'est que notre monde n'est pas régi, ne s'oriente pas, ne décide pas en fonction des lois de Dieu. Et ça provoque une réelle souffrance en nous, un déchirement, presque une schizophrénie, parce qu'on est du monde sans être du monde. On est citoyen du monde, citoyen des cieux. Et c'est des lois différentes, voire contradictoires, qui s'opposent parfois. Et il y a une constatation de décalage, une opposition, un malaise entre nous et le monde. Si nous ne vivons pas cette souffrance intérieure, si nous ne sentons pas ce déchirement entre les lois du royaume et les lois que je constate dans ma société, dans ma vie, en moi de manière naturelle, hein, les lois qui montent en moi de manière naturelle dans mes relations avec ma femme et mes enfants ne sont pas les lois du royaume de Dieu, je dois me battre. Si je n'ai pas cette souffrance, alors au lieu de nous culpabiliser en disant mais tu as de la peine à pardonner, tu te mets en colère, tu es pas sympa avec tes collègues de travail quand ils font des plaisanteries grivoises, etc., tout ça, tu devrais quand même plus travailler ton caractère, etc. Non. Nous sommes en tension, et c'est difficile de vivre dans ce monde, et c'est un bon signe si nous sommes en tension face à ce que nous voyons et face à ce que nous pouvons ressentir. Si nous n'avons pas cette souffrance en nous, je pense que c'est parce que nous nous sommes quelque peu installés dans ce monde, que nous avons trouvé quelques possessions, quelques petits coins pour être bien, quelques aménagements de compromis pour pouvoir vivre dans ce monde pas trop mal. Et c'est ça que le Seigneur veut nous dire. Pas de possession. Non, pas de voiture, même pas une résidence secondaire, vous pouvez même avoir un bateau sur la mer, peu importe, c'est pas ça. Mais c'est une possession, un petit coin pour être tranquille, sans souffrance. Au fond, j'arrive bien à faire la part des choses, je m'accommode et je passe au milieu de ma vie terrestre en attendant le ciel. Et je souffre pas trop comme ça. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Quelle est ma possession? Quelle est mon adaptabilité? Quelle est la part que j'ai trouvée dans ce monde sur des questions comme les priorités, la gestion du temps, la télévision, l'argent, les disponibilités, la critique, la valeur des choses, les priorités, l'économie, etc., etc. Est-ce que je suis un radical décalage? Parce que notre monde est régi par d'autres lois. Ma nature chrétienne de chrétien, mais ma vieille nature de chrétien comme la vieille nature des non-chrétiens, c'est la même. D'accord? Est-ce que je suis en décalage, en tension? Ou est-ce que j'ai trouvé un coin de possession, d'arrangement, d'aménagement pour moins souffrir? Est-ce que quelque chose m'empêche de recevoir ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ce que Dieu souhaite dans chacun des domaines de mon entreprise, dans mes relations aux autres? Ou est-ce que réellement, je peux dire, je n'ai point de part, pas une petite part, mais point de part dans ce monde, pas de possession, rien qui peut permettre à mon cœur d'échapper à Dieu et à son projet pour moi et pour l'Église. Je rappelle que c'est une tension et que c'est un combat. Ce n'est pas quelque chose de définitif et d'acquis. Mais je dois sentir cette tension Et je précise que ce n'est pas une ascèse, parce que l'ascèse va nous amener hors du monde, va nous amener à nous replier. Et ça, c'est facile, c'est facile. C'est pas facile d'être au couvent, c'est pas facile d'être ermite. Mais, et Dieu en appelle certains. Mais nous ne sommes pas appelés à être ascèse ou ermite, donc c'est difficile. Mais ça n'est pas un esclavage servile, légaliste. Pourquoi ? Parce qu'immédiatement après que Dieu dit « pas de part pour toi, pas de possession », il dit quoi ? Pour que tu sois sérieux, pour que tu sois un chrétien qui ne mange pas trop, qui ne boit pas trop, qui ne prend pas trop de vacances, qui est vraiment tout donné à mon royaume, pas du tout. Ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu dit « pas de part pour toi au milieu de ce monde », c'est vrai que ça sera dur pour toi, il ne faut pas que tu aies de part, là, il n'y a rien à voir entre le monde, t'es citoyen des cieux. Mais c'est moi qui suis ta possession. Vous voyez le cœur généreux de Dieu, c'est pas pour nous retirer ou pour nous dire soit chiche, soit pingre. Je ne sais pas comment ce qu'on dit dans le Nord. Vous comprenez ces mots hein? C'est pour nous offrir plus. Dieu dit, c'est parce que c'est moi qui veux être ta possession. Alors je ne sais pas entre la possession du monde ou la possession de Dieu, il n'y a pas trop photo. Donc Dieu est généreux. Mais il nous invite à faire une part des choses. Pas de possession. Pas de compromis. C'est moi seul, qui suis ta possession. Réfléchissons donc sur ce premier appel exigeant, pas de possession pour toi dans ce monde. Deuxième parole, alors ça je l'aime beaucoup, puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. Alors on résume rapidement cette histoire qui est formidable, qui ne me plaît pas du tout et qui ne plaît pas au pasteur. Vous avez entendu ce récit qu'on a lu? On dit cette fois, et puis c'est sur l'ordre de Dieu, on va faire une réunion d'église pour vraiment que le pasteur soit pas tout seul. Et puis on va recevoir le Saint-Esprit, on va communiquer des onctions, et puis chacun va pouvoir prendre sa place dans l'église. Et puis là vraiment il faut qu'on soit tous là, qu'on fasse le point, comme hier soir on se pose des questions sur l'église, sur les priorités. Et puis le Seigneur va déverser, multiplier son onction au milieu de nous pour qu'on soit des serviteurs et des servantes pour un nouveau départ. C'est ça la réunion que Moïse fait avec Dieu. Alors Moïse réfléchit avec Dieu, fait une liste, etc., 70 et tout ça. Et puis comme nous, c'est le malheur des responsables d'église, c'est qu'il y a toujours des gens qui viennent pas aux réunions. C'est énervant, ces gens, ils sont pas réguliers, on peut pas compter sur les gens, et puis on croit qu'on est 40, voilà, qu'on est plus que 10, et puis voilà. Alors là, ça va, hein. Deux qui manquent seulement, ça va. Mais au moins, alors s'ils viennent pas à la réunion, ils vont pas à la bénédiction quand même. Non, franchement, ça sert à quoi si on a des réunions et que ceux qui restent chez eux, ils en ont autant que ceux qui viennent à la réunion? On va tous rester chez nous. C'est ce qui se passe dans le truc. Hein. Et puis Josué, dont il est bien dit qu'il a servi Dieu depuis son jeune âge et qu'il est le premier associé, qui est vraiment proche du cœur de Dieu, qui est l'intendant d'Aaron, qui est là avec, tout de suite quand il entend dire que deux ne sont pas venus, tant pis ma fille. Tant pis pour eux, hein. Ils n'ont pas voulu venir. Mais alors, ce qui est grave, c'est qu'au moment où l'onction descend à la réunion, eux qui sont pas venus à la réunion, ils se mettent à prophétiser. Ils ont rien demandé, ils vont pas aux réunions, et puis ils prophétisent. Non, mais franchement, ça, c'est pas normal. Au moins, il fallait demander, à la limite, qu'ils aient fait une réunion en s'excusant, puis en disant, ben, on sera pas avec vous parce qu'on a un empêchement, voilà, on a une bonne raison, on l'a dit, et puis voilà qu'on est aussi béni. Mais ils ont rien dit, ils viennent pas, tout ça, et pourtant, ils sont sur la liste. Et ils reçoivent la même bénédiction. Et Josué a vite couru. Non, c'est un jeune homme, pardon. C'est un autre qui a vite couru, qui a été le rapporté. Et tu sais, tu te rends compte, il n'est pas venu à la réunion. Et puis, il prophétise, il faut le faire taire. Et là, Aaron a cette parole extraordinaire. C'est Aaron ou Moïse? Je suis en train de me mélanger. C'est Moïse? Oui, c'est ça. Il faut que je reprenne mon texte sous les yeux parce que. Heureusement qu'il y a des gens qui suivent. Hein. C'est nombre 11. Non. Ah voilà, ouais, c'est pas là, je suis à la fausse page. Je suis dans la verge d'Aaron. Moïse, exactement. Donc, il court, il dit, il y eut deux hommes, donc appelé Eldad, je ne trouve plus. Voilà, un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse. Et dit Eldad et Moïse, prophétise, Josué lui dit, fais les têtes. Et Moïse a cette réponse extraordinaire, puisse tout le peuple de Dieu être prophète. Ça, c'est un beau cœur de berger. s'inquiète pas qu'ils ne sont pas venus. Alors, venez aux réunions, hein, pas que Jean-Luc après me dise, tu es venu pour prêcher l'irrégularité. Non. Soyez réguliers aux réunions, on a besoin de chacun, venez, etc. Mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est pas qu'ils ne soient pas venus aux réunions, c'est cette réponse. Est-ce qu'il faut les faire taire? Non. Puisse tout le peuple de Dieu être prophète. Alors, deux choses très intéressantes avec ça. Première chose. Ça veut dire quoi? D'être prophète. Pour une fois, parce qu'il y a plein de doctrines, plein de séminaires pour un prophète. C'est quoi aujourd'hui? Vous avez des séminaires qui enseignent que d'être prophète aujourd'hui, c'est quelqu'un qui donne régulièrement des prophéties, mais qui en donne un peu plus précisément, et qui a vraiment un ministère de prophète dans l'église. Voilà. D'autres, le prophète dans la société, dans des églises réformées ou d'autres, etc., c'est Martin Luther King, c'est des gens qui ont fait une action radicalement prophétique, en avance sur son temps, ou au bon moment de Dieu. D'accord? On pourrait être prophète, l'abbé Pierre, la mère Teresa, c'est des prophètes. Ils sont pas forcément très pentecôtistes, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et des autres, prophètes, c'est autre chose. Donc c'est déjà deux notions très 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 différentes. Alors qu'est-ce que nous dit ce texte? Est-ce que le prophète, c'est celui qui prophétise? Est-ce que le prophète, c'est celui qui est en décalage sur son temps? Eh bien, ni l'un, ni l'autre, dans un premier temps. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte biblique, avant les prophéties, quand il est dit qu'il faut être prophète? Verset 17 nous dit ceci. Je descendrai, c'est Dieu qui parle. Donc, je pense que la meilleure définition de qui est un prophète, c'est quand même de Dieu, hein, plus que de l'église apostolique ou des pentecôtistes, de l'assemblée de Dieu. Dieu dit, je descendrai là, je répandrai mon esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux afin que quoi? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que dit Dieu pour un prophète? Est-ce que vous êtes des prophètes ce matin? Dieu dit, je veux des prophètes afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Moi, j'ai jamais entendu un séminaire sur le ministère prophétique pour dire ce que ça veut dire, c'est que le pasteur ou les anciens sont trop seuls et que pour nettoyer les toilettes et pour faire la sono et pour préparer la salle de culte et pour aller faire de l'évangélisation, il faut plus de prophètes. J'ai jamais entendu ça. La parole de Dieu dit, Dieu lui-même qui parle, qui dit il faut absolument cette réunion et il faut que je répande mon esprit pour que ça soit plus seul sur Jean-Luc que le poire pose. Mais sur chacun, pas sur trois anciens ou quatre diacres, sur chacun des membres du peuple, puisse tout le peuple de Dieu, pas seulement certains, être prophètes, c'est un cri du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament, avec la Pentecôte, puisse tout le peuple de Dieu être composé. Donc vous tous, puissiez-vous être remplis de l'Esprit pour être des prophètes à Voivrin, c'est-à-dire porter avec les responsables la charge de l'Église. Extraordinaire. C'est ça que le Seigneur donne comme vision. Que tous, du premier arrivé au dernier arrivé, dans l'Église, vous soyez prophètes, c'est-à-dire de porter la charge de l'Église. Alors engagez-vous, qu'il disait, vous connaissez cette phrase. Engagez-vous les uns aux côtés des autres pour être prophètes. Et ensuite, seulement, bien sûr, ils sont mis à prophétiser, c'est-à-dire à dire des paroles d'exhortation, d'interpellation de la part de Dieu. Mais il y a ces deux aspects. Ce n'est pas être parfait d'être prophète, mais c'est d'être de ceux qui dérangent, qui sont en décalage, et ça rejoint, si nous sommes en décalage, nous sommes en souffrance, nous sommes prophètes, c'est-à-dire que nous sommes porte-parole d'un autre monde, ambassadeurs des cieux, donc ça rejoint ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, nous sommes citoyens d'un autre royaume. Mais le prophète, par définition, est celui qui est bien l'expression d'une parole d'ailleurs. Hein, vous voyez, là aussi l'unité du projet de Dieu. Troisième, dernière parole, cette parole, après cette parole d'exigence, pas de part, pas de possession pour toi au milieu, que ça soit clair, sans compromis, mais je suis ta possession. Cette deuxième parole d'appel à engagement, à si tu n'as pas de part, si c'est moi ta part, je t'invite à servir comme prophète au milieu de mon peuple, c'est-à-dire porter avec tes frères et sœurs l'Église. Troisième étape, la promesse, l'espérance. Un bâton sur lequel ton nom est écrit peut fleurir et porter du fruit en une seule nuit. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut nous dire dans notre vocation d'être sel et lumière de la terre? savez que d'être sel et lumière de la terre, le sel, qu'est-ce que c'est? Le sel, c'est tout le contraire de la lumière. Le sel, il est caché, il est petit, il est froid, il est enfoui, et il doit se dissoudre pour fonctionner. La lumière, c'est chaud, ça se voit partout, c'est pas sous terre, et ça brille. Exactement l'inverse que le sel. Et il en faut beaucoup. Le sel, vous en mettez beaucoup. Tout, on pourrait prendre. Le sel, c'est peu. La lumière, il faut que ce soit beaucoup. Le sel, c'est sous terre. La lumière, c'est en dehors de terre. C'est vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Soyez sel et lumière. Ça veut dire, soyez tout. Parce qu'un peuple de Dieu, si tout le monde est prophète, eh bien, vous serez tout. Vous serez sel, vous serez lumière. Tout le monde ne peut pas être sel et lumière. Il y a des gens qui, dans leur caractère, sont plus sel que lumière. Il y a des gens qui veulent être lumière pour aller prêcher sur la place publique. Très bien. Il y en a d'autres qui sont sel par un mot qui est dit discrètement auprès d'une personne âgée. Ou aumônier d'hôpital, comme notre sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ensemble, en tant que corps, nous serons, vous êtes. Pas tu seras sel et lumière, c'est vous êtes sel et lumière de la terre. Ça, c'est très important. On veut des fois essayer d'être sel et lumière, et puis, si vous mettez le sel dans les yeux et la lumière dans la soupe, très mauvais. Cette parole d'espérance, c'est que votre chacun, on peut prendre chacun de vos prénoms. Si on avait une retraite d'église ensemble, je vous dirais, on va faire l'exercice maintenant. On va aller réfléchir chacun à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et maintenant, je vous dirais, vous allez prendre un bout de papier, mettre votre nom dessus. Hein, et aux uns et aux autres, vous allez dire, j'accepte d'être avec toi, sel et lumière. Ensemble, on sera sel et lumière. Et nos prénoms inscrits sont comme sur cette branche. On pourrait mettre même avec des branches. Hein. Elle a été conservée, cette branche, pour dire que Dieu choisissait de faire à une branche sèche, qui n'a plus de racines, qui n'a plus rien, c'est pas ses pieds, hein, juste une branche, même plus de tronc, de porter la sève pour produire des fleurs, produire des amandes. Vous savez ce que c'est comme les amandes? C'est dur une amande. En une nuit. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? C'est que c'est impossible aux hommes. L'église de Voivrin ne peut pas être sel et lumière de Voivrin. C'est pas possible. Et si vous essayez, vous allez vous épuiser, vous allez être fatigué, et ça va produire un peu d'amertume, peut-être une ou deux conversions, parce qu'il y a la grâce de Dieu, mais c'est tout. Mais à Dieu, c'est possible, si sa sève coule en vous. Hein? On est un bâton sec. Notre église de Voivrin est un bâton sec. Rien de plus. Une petite association qui va qu'à un quart. On a certaines petites églises qui disparaissent, on a d'autres qui essayent de se battre, quelques-unes grandes, gloire à Dieu, mais voilà. Mais quand la sève de Dieu vient, parce que tout le peuple de Dieu est prophète, et sait les lumières, et accepte d'entrer dans la vision de Dieu, alors la sève circule, et Dieu fait que là où on ne s'attend pas, des fois on évangélise là, et c'est là-bas que ça sort, on fait ça, ça ne produit rien, mais Dieu donne ailleurs. Eh bien, ce récit est donné pour dire que d'un bâton sec, sans racines, sans rien, déjà il ne peut pas y avoir de feuilles. Encore, vous pouvez prendre au printemps une branche de forsythia, la mettre dans l'eau, elle va fleurir, d'accord? On dit oui, c'est à peu près réaliste. Oui, mais là, il n'est pas dit que c'était du forsythia. Mais de toute façon, je vous mets au défi, même au printemps, même avec de l'engrais, même avec du forsythia, de faire pousser des fleurs, des fruits et des amandes. Ça, c'est pas possible. Et cet exemple est donné avec l'amande qui a une coque dure, qui a une amande, une coque dure et une autre enveloppe, et qui vient après des fleurs et de la chaleur et du temps. Hein, on ne peut pas claquer des doigts avoir des amandes. J'ai vu aucun prestidigitateur montrer un tour de magie comme ça, et ça serait impossible. Dieu veut nous dire par là que notre témoignage, notre fait que nous pouvons rayonner, porter du fruit, est le fait de Dieu seul. Notre rôle, c'est d'accepter de ne pas avoir de part, d'accepter d'être collé au cœur de Christ, donc de souffrir dans ce monde, hein, là où le serviteur a été. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Christ a souffert dans cette terre, nous allons souffrir sur cette terre, mais Dieu peut nous donner de porter du fruit. Alors j'aimerais terminer en disant que ce qu'il y a d'extraordinaire, ce n'est pas par notre travail, ce n'est pas par nos forces, afin que personne ne se glorifie, vous savez, mais pourquoi vous pouvez dire, pourquoi vous pouvez être assuré que vous êtes vous chacun, Philippe, Pierre, Paul, Jacques, Anne, etc., ce bâton qui a fleuri, que Dieu va utiliser au milieu de cette église si vous acceptez d'être sans possession, dépendant, les uns avec les autres liés et avec cet esprit de service de prophète. Eh bien, parce que voyez-vous que le plan de Dieu, c'est que quand il est mort à Golgotha, la branche a été coupée. Mais il a pris nos noms sur lui à la croix, et dans la résurrection, la sève est venue. Et à la Pentecôte, les bourgeons ont éclaté et le fruit a été porté. C'est pour ça qu'on est prophète. C'est à Pentecôte que se passe ça. Et je le rappelle, prophète pour porter ensemble la charge du peuple par sa force, par sa vie. Et nous sommes invités à conserver cette branche que nous n'avons plus, je ne peux plus vous la présenter ce matin, mais par le texte biblique, elle nous est conservée. On peut la voir dans ce texte biblique. Et il est dit quelque chose d'intéressant. J'aimerais terminer par ça avant de prier un instant avec vous. Pourquoi le Seigneur a dit qu'il a gardé ces choses, ces témoignages, cette sainte scène, la manne, et là dans le texte qui nous occupe, la branche d'Aaron? Il nous a dit, afin de faire cesser quelque chose. Qu'est-ce qui doit cesser dans l'Église? Voilà. Les plaintes, les murmures. Est-ce qu'il y a des plaintes et des murmures? Si le témoignage nous est gardé, la Sainte Cène, la branche, c'est pour faire cesser du milieu de nous les plaintes et les murmures. Et parfois, on ne gémit pas assez du Saint-Esprit et on se plaint un peu trop de ce qui ne va pas dans l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait faire l'inverse. Il faudrait arrêter de se plaindre du pasteur de l'Église, des anciens, des non-chrétiens qui ne viennent pas, etc. Et commencer à gémir par le Saint-Esprit dans ce monde pour que des choses changent. Et nous sommes, chacun de nous, appelés à la croix à recevoir ce nom nouveau sur cette branche qui porte du fruit. Amen. Je vous invite à prier quelques instants. Prenons quelques instants de silence devant Dieu. Seigneur, merci parce que tu ne nous juges pas, tu ne nous culpabilises pas, tu ne nous prends pas tout. Tu nous dis, c'est moi qui désire être ta part. C'est moi qui te fais porter du fruit, fleurir, là où tu ne peux pas. C'est purement miraculeux le témoignage de l'Église de Jésus-Christ. Pardon, Seigneur, pour les efforts humains. Et nous voulons recevoir de toi la juste souffrance, le juste soupir de ton esprit, la respiration de ton esprit en nous. Garde-nous, Seigneur, des possessions et des lois du monde, des attitudes qui sont gravées en nous, infiltrées en nous petit à petit jusque dans l'Église, pour fonctionner comme une entreprise, pour faire tout un tas de choses et de réactions comme tu n'avais pas prévu que ton peuple soit. Seigneur, réapprends-nous à être prophètes les uns aux côtés des autres, en servant, sans critique, sans murmure, mais les uns en donnant la main aux autres, tous prophètes, tous portant la charge de ton Église, de ton corps. Seigneur, si nous sommes étrangers dans ce monde, nous sommes tes enfants. Merci parce que tu as donné vie à nos branches. J'invite maintenant simplement, en restant dans la prière, ceux et celles qui sont d'accord d'être prophètes ici à Wavrin, dans le sens où nous l'avons dit, de se lever à leur place et nous l'ont prié encore ensemble. Il n'y a pas de jugement sur ceux qui restent assis. Hein. Certains ont besoin simplement encore de méditer, de réfléchir. Que chacun se sente libre. Seigneur, nous tournons vers toi. Nous appelons ton Esprit Saint sur nous ce matin. Viens, Seigneur, bénir ces frères et sœurs de Wavrin. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait une étape nouvelle de vie pour ces prophètes qui se lèvent pour servir aux côtés des uns des autres. Viens, Seigneur, allumer ton feu de service, ton feu prophétique, pour porter cette ville devant toi, pour porter cette région devant toi, pour porter les voisins, les voisines, les collègues de travail devant toi. Pour que dans les situations difficiles, nous puissions non pas nous dire tout va bien, nous sommes chrétiens, mais dire nous sommes avec vous dans la souffrance, avec vous dans la difficulté, mais nous avons une espérance. Viens Seigneur, visite et fais germer cette église, Seigneur, pousse les murs pour que la vie jaillisse, pour que les fleurs jaillissent, pour que les fruits jaillissent. Nous appelons ce miracle de ta part sur cette ville de Wavrin et sur cette région. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.